Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet. Xavier, vous recevez aujourd'hui, Julien Ossetti de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, pour parler de la première visite officielle en Russie d'un monarque saoudien en fonction.
Bonjour Dani. Première venue d'un chef d'État saoudien en Russie mercredi dernier avec la visite officielle du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud à Moscou. Bonjour Julien Ossetti.
Bonjour.
Merci d'être venu en studio, chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et bien sûr spécialiste de la Russie. Alors le roi Salman et une délégation de 1000 personnes dont 100 chefs d'entreprise reçus au Kremlin et une série de 14 accords de coopération, notamment une première vente annoncée du système antimissile russe, le fameux S-400. C'est un des symboles d'une amitié affichée à un niveau inédit, a dit le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. C'est une reconnaissance par l'Arabie Saoudite de la position russe au Moyen-Orient, mais qui a pu surprendre car la Russie et l'Arabie Saoudite s'opposent, on le sait, sur des dossiers importants, notamment la Syrie et le Yémen. Alors en toile de fond de cette rencontre, ce sont aussi la solidité de l'alliance russo-iranienne et américano-saoudienne qui sont testées dans un contexte où la reconstruction syrienne va se poser. Visite qualifiée donc d'événement emblématique par Vladimir Poutine. S'agit-il d'une visite de circonstance, d'un nouvel axe ou d'un trompe-l'œil? Julien Ossetti, je le disais, ce qui a été remarqué par beaucoup de commentateurs, c'est qu'il s'agissait d'un revirement par rapport, disons, à la prise de distance des années antérieures. Est-ce que ce revirement est réel? Est-ce que cette prise de distance était si grande finalement?
Alors, revirement, le terme est peut-être un peu fort. Moi, je pense qu'il faut évidemment nuancer la portée de cette visite, qui a une dimension symbolique très forte et qu'il faut interpréter à mon sens à travers le prisme des relations historiques extrêmement complexes et souvent hostiles entre ces deux pays plutôt que au travers de sa signification purement politique. Moscou et Riyad ont eu des rapports très conflictuels même quelques années auparavant sur la Syrie, sur la Tchétchénie. À l'époque, au début des années 2000, Riyad était encore accusé par Moscou d'avoir contribué au financement de la rébellion tchétchène.
Ouvertement accusé même.
Ouvertement, tout à fait, tout à fait. Il y a eu un tournant avec le roi Salman à partir de sa prise de fonction en 2015 qui est beaucoup plus subtil dans son approche vis-à-vis de la Russie que son prédécesseur Abdallah. Et qui a également su compartimenter la relation à la Russie, d'une part dans les sujets routiniers, donc les questions pétrolières sur lesquelles on parlera plus tard, et les sujets plus sensibles comme la Syrie et l'Iran. La symbolique, à mon sens, elle joue d'abord sur les acteurs de cette rencontre entre Poutine et Salman, puisque ce qui est frappant, c'est d'une part la première visite d'un monarque saoudien en Russie, mais depuis 2 ans, c'était le jeune prince héritier, Mohamed Ben Salman, MBS, qui tirait les ficelles de la relation avec Moscou.
Et qui est venu en mai de cette année, d'ailleurs en Russie, encore une fois.
Tout à fait, tout à fait, qui a rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine en Russie depuis 2 ans. Il avait notamment participé au forum économique de Saint-Pétersbourg, donc qui est très symbolique pour la Russie. Donc il avait su qu'il des relations très personnelles, très profondes avec Poutine. Or là, c'est le roi Salman qui est plus distant vis-à-vis de ce pays, qui sort à Moscou. Donc ça a été interprété aussi à Moscou comme un signe de, non pas de défiance, mais du moins de prudence dans l'approche vis-à-vis de la Russie.
Et en tout cas, rencontre, vous le dites, de haut niveau, assez méticuleusement même préparée. Vous parliez de ces visites déjà de second rang, on pourrait dire, mais bien préparée aussi sur le plan religieux, c'est ce qu'on peut remarquer. Bienvenue en Russie, gardien des deux saintes mosquées, c'est ce qui était affiché à Moscou. C'est assez rare tout de même, une attention si particulière à la question religieuse de la part des Russes également.
Alors ça, c'est une spécificité de Poutine depuis son arrivée au Kremlin, puisque dans un contexte où le conflit en Tchétchénie était en train de se répandre et causait bien des tensions, c'est une période aussi où il y avait beaucoup d'attentats à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc Poutine a toujours eu le souci de pacifier et de montrer la proximité des musulmans russes avec l'Oumma et donc avec l'Arabie Saoudite qui, de par son influence et son poids religieux, avait un rôle important à jouer. Et dans cette perspective, il faut peut-être citer aussi le rôle de Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, qui a toujours été utilisé depuis son arrivée à Grozny comme envoyé spécial du Kremlin dans le royaume en particulier. Alors il s'agit parfois de porter des messages au roi, de montrer que la Russie se soucie du sort des musulmans, oui, à l'échelle internationale, pas seulement au Moyen-Orient, en Russie, mais aussi en Asie ou en Afrique, et aussi de poser la Russie en puissance musulmane qui compte.
Et voilà. Relation dans laquelle j'ajouterais que c'est impliqué aussi le patriarcat orthodoxe russe ces dernières années. Si on parle de la coopération économique maintenant, donc une série d'accords a été annoncée, je le disais, 14, pour l'instant 3 milliards de dollars également. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est difficile à dire, du moins sur le pétrole, depuis la fin de l'année dernière. C'est un accord qui a été une réussite, vous allez me donner votre avis, mais l'idée c'était de déstocker pour pouvoir augmenter les prix du baril. Il s'agissait de limiter la production, de la diminuer d'1,8 million de barils par jour. Cet accord pourrait être reconduit jusqu'ici, donc ça a été un succès, on pourrait dire, du moins.
Alors, exactement, donc c'est un accord qui doit être reconduit jusqu'en mars 2018, qui fait l'objet d'intenses négociations, dont on n'a pas tous les tenants aboutissants, évidemment. Mais ce qui est assez frappant, c'est que c'est curieusement dans la sphère énergétique, qui est traditionnellement le haut lieu des rivalités entre Russes et Saoudiens, qu'il y a aujourd'hui convergence. Et donc l'accord qui s'appelle OPEP+, a justement pour objectif de stabiliser les prix du pétrole, voire les faire un peu augmenter, dans un contexte où il y a à la fois une baisse de la demande mondiale, une concurrence des pétroles et gaz de schiste américains, et plus largement un dollar assez fort, et voilà des circonstances macroéconomiques qui pèsent sur ces questions purement pétrolières. Et ça, les Russes, si vous voulez, ont réussi à obtenir la prolongation de cet accord, non seulement avec Riyad, mais aussi avec d'autres pays régionaux, dont l'Iran. Et donc ça, c'est une question purement diplomatique, et les Russes ont réussi à joindre l'Iran.
Effectivement.
À cet accord.
Donc là, on pourrait parler, sinon d'un axe, du moins d'un noyau ou d'un moteur sur les questions pétrolières russo-saoudiennes. Pour ce qui est de la coopération économique plus large, c'est un peu plus difficile de dire l'avenir. Il y a deux fonds d'investissement qui ont été annoncés pour une coopération sur les hautes technologies et l'énergie, éventuellement l'exploitation de gisements de gaz naturel en Arctique ou des investissements dans l'agriculture russe. Est-ce qu'il s'agit d'opportunités conjoncturelles, sachant que les deux pays ont quand même des difficultés à attirer les investissements étrangers en ce moment, ou alors est-ce qu'il s'agit de coopération à plus long terme, selon vous?
Alors effectivement, la Russie pâtit des sanctions internationales. L'Arabie Saoudite cherche à diversifier son modèle économique basé uniquement sur la rente énergétique. Et dans ce contexte-là, l'Arabie Saoudite se présente avec quasiment 1000 chefs d'entreprise. Il faut bien avoir à l'esprit que, traditionnellement, dans les relations entre Moscou et Riyad, l'économie a toujours été subordonnée à la géopolitique. C'est-à-dire que malgré la signature d'accords ponctuels et souvent modestes sur le plan financier, les circonstances régionales et globales pèseront bien davantage.
Oui, d'autant que c'est ce qu'on appelle des accords cadres, c'est-à-dire qui, pour l'instant, ne signifient pas des ventes directes ni une coopération effective.
Voilà, ce sont des accords cadres et des protocoles d'intention, ce qui est le cas pour faire la transition parfaite avec la question de l'armement, où on a annoncé la signature d'un contrat avec entre Russes et Saoudiens en matière de défense antimissile, avec le fameux système antimissile S-400, qui est une version perfectionnée du S-300, qui aurait dû être vendu à l'époque aux Iraniens et aux Syriens en particulier, et dont la vente avait été maintes fois retardée, bloquée sous pression occidentale. Et là, ce qui est frappant, c'est que cette annonce intervient quelques semaines après l'achat, pour le coup ferme, de ce système par la Turquie. Donc, coup sur coup, à quelques semaines d'intervalle, les Russes annoncent la vente de ce système à deux alliés majeurs dans la région, des Américains. Donc, en termes symboliques, encore une fois, on y revient toujours, avec la Russie de Poutine, il y a une forme de succès diplomatique, au fond, à travers l'annonce de ce S-400.
Et il y a même deux choses. Alors, il y a la question symbolique, ça peut être effectivement un message diplomatique. Et est-ce que ça veut dire aussi, même si on n'est pas entre experts militaires, mais que aujourd'hui dans la région, avec le S-400 en Turquie, le S-300 en négociation, en tout cas avec l'Iran, et le S-400 en Arabie Saoudite, on a une sorte de couverture ou parapluie antimissile russe au Moyen-Orient.
Alors, il faut bien distinguer la question de la vente de système du déploiement par la Russie, qui est déjà actuel en Syrie. Il y a déjà un S-400 déployé sur la base aérienne près de Latakia en Syrie. Il y a une version navale un peu inférieure qui est sur la base navale de Tartous. Et un S-400 en cours de déploiement près de Deir ez-Zor, dans le désert syrien, au nord-est du pays. Donc effectivement, il y a une forme de bulle stratégique, de bulle de déni d'accès, comme on dit en langage militaire, qui verrouille le ciel proche-oriental, et qui donne un avantage stratégique majeur à la Russie.
Et une concrétisation des ambitions russes dans la région. Sur le plan, disons, de la coopération diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, si chacun essaye d'obtenir une contrepartie de l'autre, puisqu'on sait qu'ils sont sont opposés sur le dossier syrien, notamment sur la question de la transition ou non du régime, une fois, disons, un accord obtenu et même en vue d'obtenir un accord de paix. Qu'est-ce que chacun peut obtenir de l'autre? L'Iran, évidemment, le roi Salman l'a évoqué lors du dîner de gala. Il s'agit pour l'Iran de ne pas interférer dans les affaires syriennes. Est-ce qu'ils peuvent obtenir de la Russie, tout simplement, qu'ils fassent pression sur l'Iran? Et qu'est-ce que peut obtenir en contrepartie la Russie de cette Arabie Saoudite qui dirige une partie de l'opposition syrienne, disons?
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a déjà la reconnaissance par les Saoudiens de facto de la domination russe sur la question syrienne, ce qui est une nouveauté, au fond, dans l'approche saoudienne qui a, comme vous le rappeliez, toujours consisté à soutenir et financer l'opposition à Al-Assad. Aujourd'hui, il y a une forme de remise en cause de cette stratégie. C'est la même chose chez d'autres pays. Mmh. Or, du côté russe, on a pris acte de cette décision, mais à Moscou, on sait bien aussi que la réussite de tout accord politique sur la Syrie ne peut pas être obtenue sans la participation saoudienne, y compris au format Astana. Or, dans le format Astana, négociation au Kazakhstan, ils contribuent de façon extrêmement étroite les Turcs et les Iraniens, qui ne sont pas les amis, loin de là, des Saoudiens. Donc, il y a un jeu diplomatique extrêmement complexe qui se noue actuellement à Moscou autour de l'Arabie Saoudite, sachant encore une fois que Moscou attache la plus grande importance à la participation saoudienne, qui est un acteur majeur, évidemment, dans les affaires régionales.
Et sachant que l'opposition saoudienne réunie le 22 août en Arabie Saoudite n'a pas réussi, encore une fois, à s'entendre. Voilà, on aurait pu parler de cette annonce faite par Washington tout récemment, il y a quelques jours, d'une vente de missiles THAAD à l'Arabie Saoudite, enfin, après cette promesse de 110 milliards d'armements. Peut-être une réponse directe. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Julien Nocetti, chercheur à l'IFRI, spécialiste de la Russie. J'ajoute que vous participerez à l'émission Affaires étrangères samedi prochain, mais sur un autre sujet.